Et toi, Bertrand, comment es-tu devenu chef d'établissement? Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. De commencer, je voudrais saluer Valérie qui écoute ce podcast en promenant son chien le soir. Donc si tu nous écoutes Valérie, eh bien merci pour tes retours et j'en profite aussi pour t'embrasser. Et aujourd'hui donc je reçois Bertrand que je vais laisser se présenter. Il va nous dire qui il est, dans quel établissement il travaille, etc. Et puis la question qui nous intéresse, c'est comment il est devenu chef d'établissement dans l'enseignement agricole. Alors l'enseignement agricole, eh bien, pour moi, c'est bien souvent des ovnis dans les réunions de chefs d'établissement. Ils sont là, mais comme ils ne sont pas que éducation nationale ou que enseignement catholique, qui a en plus le ministère de l'Agriculture, tout ça, c'est un petit peu ténébreux. Donc voilà, je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu tout ça. Alors, écoute, peux-tu bonjour te présenter François.
Bonjour François, bonjour à tous. Je suis ravi effectivement de pouvoir présenter cette petite lumière verte qui scintille un petit peu dans les réunions de chefs d'établissement. L'enseignement agricole, ce sont 200 établissements d'enseignement agricole privé temps plein. C'est des milliers d'élèves et d'apprenants, d'apprentis sur tout le territoire. C'est plutôt une dimension qui nous intéresse, hein. Comme j'aime à le dire souvent, on ne naît pas chef d'établissement. Heureusement, ça serait plutôt inquiétant pour moi. Moi, je suis économiste de formation. Rien ne me prédestinait à devenir chef d'établissement et peut-être encore moins dans l'enseignement agricole. Et puis, à la fois une opportunité professionnelle, familiale, sont venues se conjuguer. Et donc, j'ai pris mon premier poste il y a 25 ans comme chef d'établissement dans un petit établissement de Charente-Maritime qui faisait de la viticulture, de l'œnologie, de la production agricole, de la production porcine. Donc voilà, j'ai plongé dans ce monde-là sans en connaître les tenants, les aboutissants, avec une pointe d'inconscience. Je le concède comme tout le monde d'ailleurs.
Voilà, c'est
nécessaire, autrement je pense que peut-être on ne l'aurait pas fait ou on ne le ferait pas les uns les autres. Et en tout cas, j'ai découvert un accompagnement dans la fonction pour devenir vraiment chef d'établissement qui pour moi est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la rencontre de collègues, c'est aussi le partage, mais aussi des semaines de formation sur 2 ans alors que l'on est en poste. Donc, c'est à la fois un peu rude, un peu chargé, pour tout vous dire, mais bien indispensable. Et puis, ce qui, pour moi, a de la valeur, c'est qu'au bout de ce parcours de formation, c'est un peu singulier pour le ministère de l'Agriculture, mais c'est un jury de qualification qui est présidé par le doyen de l'inspection. Donc, il y a à la fois une reconnaissance de l'institution ministère de l'Agriculture et puis de nos instances, ce qui est pour moi une vraie reconnaissance pour pouvoir exercer une fonction qui est sur un territoire un peu singulière, oui, je l'avoue.
Et oui, donc tu m'as dit, alors petite intermède, c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode parce que j'ai eu un problème avec la carte de mon appareil d'enregistrement. Et tu avais insisté sur le fait que toi, le point de départ, c'était ton intérêt sur le territoire.
Voilà. Alors, parmi les singularités de l'enseignement agricole, le contrat avec l'État mentionne 5 missions auxquelles on doit répondre. Je trouve ça très salutaire, je dirais presque il y a une forme d'intelligence et de connaissance de ce qu'est un établissement agricole. Et donc, il y a l'animation, être acteur de son territoire. Donc, l'idée, c'est qu'un établissement agricole respire avec son territoire, avec son histoire, sa culture, avec ses acteurs qui sont autour. Et on n'est pas un sanctuaire. Je trouve ça plutôt sain. C'est vrai qu'on importe beaucoup d'énergie de l'extérieur. on en délivre aussi. Et je trouve que c'est cet échange, cette osmose qui donne peut-être la richesse ou la singularité de l'enseignement agricole en France, puisque dans d'autres pays, c'est un enseignement qui n'existe pas ou pas sous cette forme-là. Donc l'attachement au territoire, l'attachement à la dynamique. Voilà. Moi, je suis dans un lycée au cœur du Pays Basque. On a envie d'être ce poumon. On n'est pas juste un lieu de formation, d'éducation, de transmission, mais aussi on est un lieu qui accueille, qui propose, qui partage des compétences ou des envies ou des projets. Et c'est vrai qu'il y a une vraie dimension pédagogique de projet dans l'enseignement agricole qui fait que je pense que je pourrais pas être ailleurs de la même manière que là où je suis aujourd'hui.
Et alors, quelle est la formation? Je sais qu'elle est assez longue et lourde.
Oui.
Mais comment on devient chef d'établissement? Parce que ce n'est pas tout à fait de la même manière pour les autres établissements.
C'est ça. Donc, on a au début de la prise de fonction, on a un positionnement avec un institut de formation qui s'appelle l'IFEAP pour nous, qui est donc l'institut de formation de l'enseignement agricole privé. Ce positionnement permet de définir un certain nombre de petits manques qu'on peut avoir les uns et les autres, ou de connaissances. Et donc, on a entre 12 et 14 semaines de formation sur des thématiques aussi différentes que l'environnement, l'institution, les partenariats, la pédagogie, l'éthique, qu'est-ce que c'est qu'être membre ou faire partie d'une communauté éducative, qu'est-ce qu'est l'enseignement catholique, nos relations avec les institutions locales, etc. Donc tout ça nourrit un peu le parcours qui aboutit donc à une validation avec la rédaction d'un vrai mémoire qui est à la fois une photographie et une projection sur ce que l'on aimerait pouvoir construire avec l'établissement dans lequel on se trouve. Donc voilà, c'est très singulier, c'est lourd, mais a posteriori, je pense que c'est très utile. Donc on râle sur le moment.
La différence aussi, c'est si tu n'as pas l'examen, en fait, si tu n'obtiens pas l'examen, tu ne peux pas rester chef d'établissement, je crois.
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que
c'est un vrai challenge.
Ça peut arriver, ça arrive sur quelques promos, c'est arrivé régulièrement. Voilà, le fait de rentrer en formation n'implique pas nécessairement la réussite, puisque voilà, on a un jury avec l'institution, mais aussi le ministère. Et le ministère, je trouve, joue très bien le jeu en étant comptable d'une décision qui l'engage quelque part. Et voilà, c'est pas rien. Et pour l'institution, ce n'est pas rien, mais pour la personne qui veut ou qui a l'appétence et puis l'envie de devenir chef d'établissement, c'est pas rien non plus. Donc, ce moment-là, il est important et cette qualification donne, je pense, une certaine forme de légitimité sur le territoire, dans l'établissement, mais au-delà, à travers les institutions qui nous gouvernent.
Mais c'est vrai que ça faut l'avoir en tête quand même, quoi.
Ouais, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nos établissements agricoles ont des profils et des cartes de formation qui peuvent être très différentes. Ça peut être le service aux personnes, l'aménagement du territoire, la production, l'agroalimentaire. Donc tout ça nécessite des compétences à un moment donné transversales qui permettent aussi une mobilité des chefs d'établissement. Donc pour avoir cette capacité de mobilité, il faut avoir acquis en formation les bons outils qui permettent de passer de l'un à l'autre éventuellement.
Oui, c'est-à-dire que si on a un établissement qui ne fait, par exemple, que de la production, il faut, au cours de la formation, bien travailler tous les domaines, parce que si on veut changer d'établissement un jour, il faut être en capacité de maîtriser les autres domaines.
C'est ça, tout à fait, c'est exactement ça, parce qu'entre la production et le service, ce sont des secteurs professionnels forcément très différents. Cependant, l'ADN restant le même en termes de pédagogie de projet, de démarche et de construction, ces éléments-là fondamentaux, il faut les acquérir d'une manière ou d'une autre.
Eh bien, écoute, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'espère que ça l'est aussi pour les auditeurs. Toi, qu'est-ce qui te motive le matin pour aller dans ton établissement?
Cette pointe d'ADN qui fait que c'est pas juste pour les jeunes que je me lève ou c'est pas juste pour l'envie de les accompagner, mais c'est aussi parce qu'il y a cette dimension d'insertion sociale et professionnelle des jeunes qui est un vrai défi aujourd'hui, on le sait, pour voilà, s'insérer à travers un emploi, dans la société et voilà, et être en capacité de réussir son parcours de formation au-delà simplement de simples connaissances. Donc ça, oui, effectivement, c'est quelque chose qui me donne envie de me lever tous les matins et me dire que le jeune qui termine son bac pro ou son BTS, je sais que demain il aura un boulot et dans le domaine qui l'intéresse.
Ok, alors pour terminer maintenant, Bertrand, peux-tu te souvenir d'un chef d'établissement que tu appréciais avant de devenir chef d'établissement toi-même? Voilà, et puis alors maintenant, un donc, que tu n'appréciais pas. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire leurs qualités et leurs défauts?
Alors, je vais commencer par celui que j'ai particulièrement apprécié, qui a été mon tuteur. Qui a été mon tuteur, puisque durant ces 2 ans de formation, on a un tuteur, alors, soit qui nous ressemble en tout cas, qui peut nous accompagner utilement. Voilà, c'était quelqu'un de bonhomme, de grande expérience, et avec un regard porté sur le jeune qui donnait envie. Voilà, donc ce regard-là, c'est pour moi, c'est essentiel. Il y a les mots, le regard et le geste. Et pour moi, il avait à la fois les mots, le regard et les bons gestes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a apporté probablement autant que des modules de formation, on va dire, plus techniques qu'on peut apprendre dans un bouquin. Et puis, peut-être celui qui m'a le plus... qui m'a le plus marqué de manière négative. Alors, ce n'est pas forcément la personne en tant que telle, mais c'est plutôt l'institution, hein. Ma première année d'enseignement, je l'ai fait dans un établissement bordelais, dans l'enseignement public. Et je me souviens être rentré dans son bureau qui faisait 2 km de long. Il était assis en hauteur, moi j'étais assis un petit peu en bas de lui. Il y avait une forme de puissance de l'institution, de domination. Et c'est quelque chose qui m'a gêné parce que pour moi, la transmission derrière la mission de l'enseignant, il peut pas y avoir ça. On peut pas être dans un système de domination. Donc, c'est quelque chose qui m'a gêné. Alors, ça met pas en cause la personne, mais en tout cas, ce lieu-là, ce moment-là, je pense que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma carrière.
C'est ce qui nous construit, hein, c'est les rencontres. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce partage. J'espère que cela permettra à nos auditeurs de se lancer dans cette belle mission. Et puis, bonne journée à toi.
Merci à tous.
Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers, abonne-toi à ma liste de diffusion. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux.